dans la perspective du développement durable, le développement durable vous invite, jeune homme, oui, vous, à prendre en compte le problème dans toutes ses dimensions. Concrètement, à garder à l'esprit que la voiture, effectivement, est source de pollution, mais à prendre aussi en compte le fait que, et je ne sais pas si c'est le cas de certains de vos parents, mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. Elles ne peuvent pas se rendre à leur travail ou vous déposer à l'école, au lycée, autrement que par leur voiture. Pour une raison toute simple, c'est que souvent elles vivent à l'écart de la ville, dans des quartiers qui sont mal desservis par les transports en commun. Donc elles ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec elles? Est-ce qu'on leur interdit d'utiliser la voiture? C'est une question que nous invite à poser le développement durable. Le développement durable nous invite aussi à prendre en compte la dimension économique du problème. Ok, on peut bannir la voiture, on peut la chasser, renoncer à en produire, sauf que, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui travaillent dans l'industrie automobile, mais l'industrie automobile fait vivre des milliers d'emplois, et donc des familles. Le développement durable ne veut pas dire que du coup il ne faut rien faire, mais il nous oblige à imaginer des solutions nouvelles, innovantes. Je reprends l'exemple de la voiture. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, trouver des solutions innovantes par rapport aux problèmes posés par la voiture en évitant la solution toute simple de la bannir? D'accord? Eh bien, par exemple, ça consiste à repenser les moyens de transport de sa ville de façon à les combiner, à faire en sorte que, oui, ok, des personnes puissent continuer à utiliser leur voiture, mais pour un tronçon, une partie seulement de leur trajet. Et on imagine des parkings où elles peuvent laisser leur voiture pour ensuite prendre un transport en commun ou ensuite circuler à pied ou en vélo. C'est-à-dire l'idée, ça n'est plus d'opposer les choses les unes aux autres, c'est d'imaginer les choses dans leur complémentarité, de combiner les choses. Et ça a des implications colossales, parce que ça implique de repenser la manière d'envisager de construire nos gares, nos stations de métro, nos routes, justement pour assurer, faciliter la cohabitation de plusieurs modes de transport, de plusieurs modes de déplacement. Penser la voiture dans une perspective du développement durable, ça peut aussi consister à inviter ceux qui utilisent la voiture à adopter d'autres modes de comportement pour avoir ne serait-ce qu'un mode de consommation beaucoup plus sobre en carburant. Vous savez très bien, ou vous imaginez très bien que si vous utilisez la voiture pour faire des excès de vitesse, elle va surconsommer du carburant. Et bien peut-être qu'un usage durable de la voiture consiste à adopter une conduite beaucoup plus économe en carburant. Au-delà de la voiture, je l'ai évoqué à l'instant, ça nous oblige à repenser la ville dans son ensemble, et pourquoi pas à repenser aussi les formes d'impôts pour favoriser ceux qui adoptent des comportements exemplaires et pénaliser ceux qui continuent à n'utiliser, pour ne prendre que cet exemple, que la voiture, alors que s'ils faisaient un petit effort, ils pourraient très bien combiner l'usage de cette voiture avec d'autres modes de transport. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses. Et puis, l'industrie automobile elle-même s'efforce d'inventer d'autres choses qui ne soient pas forcément des véhicules. Il y a des constructeurs automobiles qui, plutôt que de vous proposer un véhicule, vous proposent des services qui consistent à mettre à disposition un véhicule le temps du besoin que vous en avez. Le constructeur ne cherche plus forcément à vous imposer l'achat d'une voiture que vous n'utiliserez que quelque temps, mais vous propose un autre modèle. Il y a plein d'autres choses à inventer, à innover. Bien évidemment, je pense que vous avez dû en entendre parler. Les particuliers, les individus prennent des initiatives. Je pense aux pratiques du covoiturage, dont vous avez tous entendu parler, qui consiste à se dire je vais de Dunkerque à Lille en voiture parce que j'ai pas le temps, il n'y a pas de train durant le créneau où je dois m'y rendre, ben je vais en profiter pour y conduire quelqu'un pour optimiser l'usage de la voiture. Donc vous voyez bien que le développement durable a ceci d'intéressant qui nous oblige à inventer, à innover et à être à l'écoute de ce qui s'invente ici et là. J'accélère un peu parce que je vois que le temps passe. Cécile, encore un quart d'heure, c'est ça ou c'est ça? 10 minutes, très bien. 15 minutes, 10 minutes, ça ira. Hein. On voit par là que le développement durable, c'est tout sauf une solution clé en main. C'est plus un état d'esprit, d'accord? Et qu'il implique, qu'il concerne tout le monde. Moi, j'interviens aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste, hein, je l'ai dit dès le départ, je suis un journaliste intéressé par le développement durable, mais je considère que tout le monde a son mot à dire sur le développement durable, peut-être pas au même titre qu'autrui, mais on a tous des points de vue à faire valoir. Alors, la question est de savoir, je reviens peut-être un peu en arrière, pour souligner cette idée. Le développement durable, ça n'est pas qu'une affaire de spécialistes, ça concerne tout le monde. Mais du coup, la question est de savoir comment faire en sorte que ce tout le monde, que ces différentes personnes, chefs d'entreprise, responsables d'associations, élus, pères ou mères de famille, consommateurs, salariés, puissent se concerter pour trouver des solutions innovantes. Eh bien là, on est au cœur d'une vraie question qui nous invite à repenser le fonctionnement même de notre démocratie, à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle de la ville. Comment faire connaître mon point de vue sur les enjeux du développement durable qui concernent mon pays, mais qui concernent aussi ma ville? Eh bien, c'est tout l'enjeu des débats autour de ce qu'on appelle la démocratie participative, qui dit bien son nom. C'est-à-dire une démocratie qui fait vraiment participer les gens, quels qu'ils soient, dans les débats autour de la manière de repenser sa ville ou la société. J'évoquais là ici, je ne sais pas si vous le voyez, le Grenelle de l'environnement. Ça a été un moment de controverse, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de critiques, beaucoup d'enthousiasme. Pour ma part, indépendamment des résultats de ces débats, du Grenelle de l'environnement, de ces moments de discussion, j'ai trouvé que ça a été un moment très original parce que c'était la première fois en France que des gens d'horizons extrêmement divers, des responsables d'associations, des politiques, des responsables, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, étaient invités à se réunir autour d'une table pour aborder différents sujets. Au risque de vous surprendre, dans notre société, tout le monde est d'accord sur un certain nombre de solutions, mais on n'est pas capable, j'allais dire, mais comme Madame la professeure est là, je me suis retenu, j'allais dire, on n'est pas foutu, on n'est pas capable de faire un premier pas vers d'autres acteurs pour essayer de travailler avec lui. Je ne sais pas s'il y a des zones industrielles par ici, oui, bien sûr. Moi, j'aime bien visiter les zones industrielles. Parce qu'on y découvre comment fonctionne concrètement la production industrielle. Mais je suis souvent effaré, surpris, parce que vous avez souvent plusieurs entreprises, les unes à côté des autres, et les gens qui y travaillent, ils ne discutent pas ensemble, ils ne se connaissent pas souvent. Alors que souvent, ils auraient des choses à faire pour trouver des solutions qui aillent dans le sens du développement durable. Je crois que l'un des enjeux du développement durable, c'est d'essayer de créer les conditions pour qu'on puisse discuter ensemble de solutions. Je passe très vite parce que j'ai été trop copieux dans mon PowerPoint et je ne demande qu'à y revenir tout à l'heure. J'aimerais quand même dire un mot sur « et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Quand je dis « et moi, qu'est-ce que je peux faire ?», c'est « et vous ?» Et vous, en tant que lycéen, en tant qu'adolescent, vous êtes en seconde, donc vous devez avoir entre 15, 16, 17 ans, c'est ça? Je ne me trompe pas? Donc, voilà. 17, 19, on me dit, voilà, on va faire les enchères. Qu'est-ce que je peux faire en tant que lycéen, mais même en tant qu'adolescent, et tout simplement en tant que citoyen? Souvent, je ne sais pas si vous l'avez constaté, si vous êtes intéressé au développement durable, on vous dit, c'est bien simple, vous commencez, tu commences par des gestes écologistes, sous-entendu, mais éco, ça peut aussi vouloir dire des gestes qui permettent de réaliser des économies. Déjà, à sa petite échelle, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Penser à éteindre la lumière des salles que l'on quitte, bien fermer son robinet. Mais contrairement à ce qu'on croit, et j'en témoigne, ces éco-gestes qui sont frappés au coin du bon sens, et j'espère pour vous que vous les pratiquez déjà, on ne les adopte pas facilement. Ça demande du temps, parce que ça demande à casser des routines, des habitudes. Et il ne suffit pas de dire aux gens « commencez à faire des éco-gestes », encore faut-il qu'ils intègrent ça parfaitement dans leur comportement. Et aussi triste que cela soit, ça prend du temps. Mais il faut s'y employer, commencer par là. Des éco-gestes, ça serait déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Il faut penser autrement. Penser autrement en prenant en compte un problème dans toutes ses dimensions. Je l'ai illustré à travers le cas de la voiture. Je reprendrai un exemple, c'est celui de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez entendu tous ces débats autour de la biodiversité. Il faut préserver la biodiversité, la diversité des espèces animales et végétales. Et parce que c'est bien pour l'environnement. Dans la perspective du développement durable, il faut aussi préserver la biodiversité parce qu'elle représente un véritable enjeu économique, mais aussi en se préoccupant, en veillant à ce que la préservation de cette biodiversité vaille pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès à cette biodiversité. C'est la dimension sociale du problème. En d'autres termes, la biodiversité n'est pas qu'un problème environnemental, c'est aussi un enjeu économique et un enjeu social. Et donc penser autrement, c'est penser en ayant toujours ces dimensions en tête. Alors vous allez dire, c'est bien gentil, mais tout ça c'est quand même un peu fatigant, et vous aurez raison. Même moi ça me fatigue des fois, parce que ça nous oblige à prendre en compte plusieurs dimensions et à se confronter à plusieurs choix. Vous devez faire plusieurs choix, vous êtes confronté à des dilemmes. D'accord pour renoncer à ma voiture, mais en même temps, n'empêche, c'est une solution très simple, etc. On est en permanence confronté à des choix et à des dilemmes. D'où une tendance, écoutez bien, nous arrivons à la fin et c'est très important, à une tendance non pas à se convaincre qu'il faut aller dans le sens du développement durable, mais à se donner de bonnes raisons pour ne pas y aller. Et l'une des raisons, d'ailleurs, c'est de dire « Oh, le développement durable, il y a certains qui disent que c'est inutile, que c'est un mot à la mode, que c'est pas si bien que ça, donc je ne vois pas pourquoi j'irais moi-même. » Eh bien non, c'est un objet de débat, comme peut l'être aussi bien la démocratie. Donc oui, ça n'est pas simple, et en même temps, ça peut en valoir la peine. Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, une fois qu'on a adopté des éco-gestes, une fois qu'on s'est mis à penser autrement, après les choses se font naturellement. Il y a comme un déclic qui s'opère et on se surprend à faire les choses naturellement. Donc il faut vraiment persévérer. Et pour terminer, j'aimerais vous lire le passage d'un... J'allais dire c'est un roman, non c'est pas tout à fait un... Oui, c'est une forme de roman. D'un certain Pierre Rabhi, c'est un vieux monsieur passionnant. Si vous entendez parler de lui dans le journal, dans un journal, à la télévision ou à la radio, tendez l'oreille, c'est quelqu'un de passionnant. J'ai eu en tant que journaliste la chance de pouvoir le rencontrer. C'était un ouvrier agricole et qui a inventé une autre manière de faire de l'agriculture au sud de la France. Je crois que j'ai un doute tout d'un coup, je crois que c'est dans les Cévennes. Et il a commis récemment un petit livre que j'aime beaucoup, où il dit « Quand bien même vous auriez le sentiment qu'il est inutile d'agir à votre échelle parce que les enjeux sont tellement colossaux, il utilise une métaphore, la métaphore du colibri. » Et voilà comment il illustre la métaphore du colibri. Je vous lis le passage en ne vous demandant même pas votre attention, parce que je vous trouve extrêmement attentif et je tenais à vous en remercier et à vous en féliciter. Voilà le passage. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observait impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, tu crois que c'est avec ces gouttes que tu vas éteindre le feu ?» et le colibri de répondre « Je le sais, mais je fais ma part ». Et derrière ça, il y a l'idée que non seulement je fais ma part, mais si tout le monde faisait sa part, l'air de rien, ça commencerait à produire un effet durable à l'échelle de sa ville, à l'échelle de son pays et voire même à l'échelle du monde. Allez, encore quelques mots pour vous signaler quand même que dans votre belle ville de Dunkerque, que j'aime beaucoup, il y a ce qu'on appelle un agenda 21 local. Un agenda 21 local, c'est un plan d'action qui est défini à l'échelle de votre ville pour repenser les modes de transport, l'habitat, les modes de consommation, etc. Et en principe, tout le monde doit y participer. En tout cas, tout le monde est autorisé à y participer. Je regrette souvent que ce type de plan d'action oublie de solliciter les lycéens, les adolescents, voire même les enfants, qui ont pourtant leur mot à dire. Et donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre de votre mairie, de votre maire, en disant « J'ai entendu parler de votre agenda 21 local, ça concerne le développement durable, donc ça me concerne. Pourquoi, comment se fait-il que je n'ai pas été sollicité ?» Certes, vous n'avez pas le droit de vote, vous êtes encore trop jeune pour la plupart d'entre vous, mais vous êtes d'une certaine façon déjà des citoyens de votre ville, et si ça vous dit de faire quelque chose, vous pourriez commencer déjà à le faire. Mais je me tourne aussi vers Madame Brahms, votre proviseur, pour lui, mais elle le sait très bien, qu'il y a des écoles, des établissements, des lycées, qui ont la possibilité de mettre en place déjà des agendas 21 locaux à leur échelle, c'est-à-dire de repenser l'établissement scolaire pour le mettre à l'heure du développement durable. J'ai envie de vous faire une proposition. Et si vous demandiez à Madame Brahms d'organiser un processus de consultation pour imaginer un lycée Auguste Angélière qui soit davantage en phase avec l'esprit du développement durable. Vous avez sans doute bien d'autres choses à faire, mais sachez que vous avez quand même la possibilité de peser et d'essayer d'imaginer un autre établissement pour vous-même, parce que vous avez encore 3 ans à y vivre, et puis pour les générations futures. À bon entendeur, salut. Merci de votre attention.
Merci M. Allemand pour cette brillante conférence. J'espère que chacun en a tiré profit. Alors, j'ai remarqué effectivement que la plupart des élèves étaient très attentifs et très bien. J'en ai remarqué par contre quelques-uns qui étaient très dissipés et que là, je vais les voir à l'époque. Bon. Alors, en ce qui concerne maintenant les questions, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations en fait qui ont été suscitées par M. Allemand. Donc, je vais vous passer le micro, et puis on a un micro baladeur pour les questions. Donc, les élèves qui auraient des questions.
Juste un mot à propos des élèves apparemment agités. À leur décharge, je crois que c'est ce que je disais qui suscitait des conversations en aparté. Donc, je prendrai leur défense tout en comprenant votre éventuel agacement.
Merci de votre indulgence.
Voilà.
Cette conférence était filmée, comme vous pouvez voir, et que vous pouvez la retrouver d'ici quelques jours sur un site gratuit qui s'appelle www.utlf.fr. Et sur ce site, vous avez toutes les conférences que nous donnons à l'université et les conférences que nous donnons aussi à un grand public. Ça peut vous intéresser. Donc maintenant, c'est vous qui avez la parole. On sait ô combien la première question est difficile à poser. Donc on va passer directement à la seconde question, une étape. Et on attend vraiment vos remarques et le débat est ouvert.
Alors j'invite les élèves donc qui ont des questions à poser à lever la main, s'il vous plaît. Madame le micro-baladeur, moi j'ai une micro fixe, donc éventuellement vous pouvez vous déplacer pour venir poser votre question ici.
Alors, ce qui signifierait. Si la personne qui pose une question sera filmée.
Absolument.
Et c'est quand même une chance pour la postérité. Hein.
Alors, ceux qui veulent rester dans l'anonymat, peuvent profiter du micro baladeur. Bon, il y a également des professeurs dans la salle. On leur donnera également la parole après, mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même des questions qui émanent des élèves. Alors voilà, il y a une question.
Très bien. Ah, bonne question.
La question, c'est quoi l'agenda 21?
D'accord. Pardon. Très bonne question. Et qui me rappelle, alors moi je travaille là-dessus depuis des années, donc ça me paraît évident, mais effectivement ça ne va pas de soi. Donc c'était très important que vous posiez la question. Alors, j'ai parlé d'agenda 21 locaux, mais à l'origine, en fait, il y a eu ce qu'on a appelé, c'était en 1992, il y a un événement colossal, très important qui s'est produit. Alors, vous n'étiez pas encore né. Hein. Pour moi, j'ai vécu ça. C'était un moment très très important qui s'est déroulé à Rio. Et c'était pas la première fois. Mais toujours est-il qu'à cette occasion, s'est déroulé ce qu'on appelle un sommet de la Terre, où les pays du monde entier étaient invités à se réunir pour débattre des enjeux de la planète, des problèmes qui se posaient à la planète sur le plan environnemental, économique et social, et d'essayer de dégager des solutions communes. Bon, c'était en 1992, c'était donc quelques années après la publication de ce fameux rapport Brundtland qui avait dressé un diagnostic de la situation. Et le sommet de la Terre s'était appuyé sur ce rapport pour maintenant passer à l'action. Et tous les pays, il y avait pratiquement tous les pays représentés, ont défini ce qu'ils ont appelé un agenda 21. 21 parce qu'on allait rentrer dans le 21e siècle. Et un agenda, c'est-à-dire un programme d'action pour traduire en actes les décisions qui avaient été prises lors du sommet de la Terre de Rio, dont on va fêter les 30 ans, attendez que je vous dise pas de bêtises, les 20 ans dans 2 ans. Donc c'est quelque chose que vous pourrez suivre lorsque vous serez en terminale. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il serait très intéressant de décliner ce grand programme d'action planétaire à l'échelle des pays, en donnant la possibilité à ce qu'on appelle des collectivités locales, c'est-à-dire des régions, des départements, des villes, dans le cas de la France, la possibilité de les mener à leur échelle pour adapter les solutions à leur contexte. Parce que le développement durable ne se pose pas de la même façon au nord, au sud et, et dans un même pays d'une ville à l'autre. Et charge à chaque ville d'essayer de définir un plan d'action avec l'espoir que chaque agenda 21 local, ajouté aux autres, contribue à une action efficace sur le plan de la planète. Donc concrètement, des villes, mais pas seulement des villes, hein, des régions, des départements, sont invités à se mobiliser, à mobiliser leurs services, leurs habitants, leurs citoyens, pour définir un plan d'action dans le domaine du transport, de l'habitat, de la consommation, de l'implication citoyenne, etc. Alors, je ne connais pas exactement la nature de l'agenda 21 local de Dunkerque, mais je sais qu'il existe, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer le responsable, et le but du jeu, en principe, c'est de mobiliser, de convier les habitants, les acteurs économiques, culturels, sociaux, à participer à son élaboration. D'accord ? Donc l'idée, c'était de déboucher sur des actions concrètes. Est-ce que j'ai répondu à votre interrogation ? D'accord. Et en France, vous avez, je crois, de mémoire, 500, un peu plus de 500 villes, régions, départements, des établissements scolaires aussi, qui se sont mobilisés pour définir un plan d'action qui aille dans le sens du développement durable. D'accord ? Ah, très bien. Alors, mais seulement si la question est mauvaise, on coupera au montage. Hein. Alors, appliquez-vous. Voilà. Allez. On sent le futur professionnel. Alors, comment vous vous appelez ?
Virgile.
Pardon ?
Virgile.
Très bien. Donc, comme le grand poète, hein, quelque part. Voilà. Alors, la question, c'est quoi ?
C'est de savoir pourquoi les associations pour l'environnement ne donnent pas de l'argent pour les moteurs hybrides.
Ah, pourquoi les associations qui défendent l'environnement ne contribuent pas au développement des moteurs hybrides, hein? C'est ça? Très bien. Alors, est-ce que vous voulez saluer vos parents? Non. Voilà. Merci. Alors, c'est une question compliquée, mais très intéressante. Très intéressante. Parce que je pense qu'on peut répondre simplement en disant, elles ont mieux à faire. Non, bravo, hein, merci. Elles ont quand même, elles n'ont pas forcément les moyens. En revanche, oui, mais il faut écouter la réponse maintenant. Il faut, la réponse, c'est la suivante, c'est que ce que vous soulignez, c'est un vrai problème. C'est qu'il ne viendrait pas à l'esprit des associations de défense de l'environnement de s'impliquer dans la réflexion sur les moteurs hybrides. Et pour moi, c'est dommage. C'est dommage. Pour la raison que j'ai dite tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, il faut apprendre à travailler ensemble, y compris avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est vrai que les associations de défense de l'environnement n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec le monde industriel. Or, ils auraient sans doute des choses à se dire. Alors, cela dit, est-ce que des sociétés de défense de l'environnement ont des choses pertinentes à dire sur la manière de concevoir les moteurs hybrides? Je pense pas, quoique elles ont peut-être des expertises, mais là j'ignore en quoi elles pourraient être utiles. Cependant, où je vous rejoins, c'est que je pense que les sociétés de défense de l'environnement ont des choses à dire, ont à travailler en commun avec des industriels. D'ailleurs, et j'en termine là, certaines le font. C'est-à-dire qu'il y a des industriels, des constructeurs automobiles qui ont conscience du fait qu'en produisant des voitures, elles contribuent à l'émission de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Et alors, du coup, pour compenser cela, ces industriels travaillent avec des ONG spécialisées dans le reboisement ou la reforestation. Donc elles leur allouent un budget, charge à ces associations de trouver des endroits où elles vont pouvoir planter des arbres qui sont censés absorber le CO2 et compenser ainsi les effets pervers de l'industrie, de l'activité industrielle. Je ne sais pas si je suis compréhensible, mais en tout cas ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a des partenariats un peu nouveaux qui se créent, et c'est tant mieux. C'est pas clair? Si, c'est bon.
N'hésitez pas à poser des questions.
Moi, ça m'intéresse, hein, vos questions. Hein, c'est... Et on ne vous juge pas.
Mais en plus, ce que vous pouvez faire, c'est que les transports, c'est des transports de la ville, de la région, du département. Et nous, concrètement, c'est ce que vous pouvez faire.
Tout à fait. Alors, mais d'emblée, vous avez raison de souligner l'importance du transport. Et quand je parle d'agenda 21 local, d'établissement scolaire, je ne veux pas dire par là que c'est l'établissement scolaire qui l'imagine seul dans son coin. Ça se fait en partenariat, en association avec les collectivités locales. Donc rien n'empêcherait d'avoir une discussion sérieuse avec votre municipalité. Cela dit, en dehors des modalités d'accès, un établissement scolaire, je ne vous l'apprends pas, vous le vivez pratiquement au quotidien, c'est aussi un fonctionnement du chauffage, de l'éclairage, donc ça passe aussi par de nouvelles manières de l'éclairer, de le chauffer. C'est aussi un endroit, et je crois que c'est le cas ici, où l'on se restaure. Donc qu'est-ce qui empêcherait d'imaginer de travailler avec des producteurs locaux dans la limite des possibilités liées à la réglementation pour assurer un approvisionnement partiel de fruits et légumes qui viendraient des alentours. Ce qui a de bien avec le développement durable, c'est que la réponse n'est pas écrite par avance. Elle émerge de la confrontation des acteurs qui acceptent de se mettre autour d'une table et de dépasser les cloisonnements habituels qui les empêchent de dialoguer. Mais allez, poursuivons. Pourquoi pas aussi imaginer, si ce n'est déjà fait, des instances où les lycéens puissent avoir faire entendre leur voix pour que vous puissiez capter leurs attentes sans que pour autant ils interviennent dans la gestion au plus près du lycée. Pourquoi ne pas imaginer de leur allouer un budget pour les responsabiliser dans la gestion de la ressource financière? On peut imaginer toutes sortes de choses, et du coup je me garderai de vous dire quoi que ce soit parce que ça supposerait aussi que je m'attarde plus longuement sur cet établissement pour vous faire des suggestions appropriées. Mais je vous invite à regarder le site du Comité 21, qui est une structure qui accompagne les élus, mais aussi les établissements, et vous aurez des exemples concrets d'agenda 21 scolaire, disons. J'ai répondu ? Alors maintenant, un élève de madame, ou une élève.
Alors, madame Deloge, sur le thème, pas d'élèves pour vous faire ça, on est surprenant ça.
Qu'est-ce qui vous intimide ? Le regard du camarade, des camarades, mais soyez vous-même, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vous tromper, de formuler des questions un peu à côté de la plaque, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Là, on a encore quelques minutes à passer ensemble, autant en profiter pour échanger.
Attardé sur ce thème. Pourquoi, en tant que journaliste, je crois qu'il y a énormément de sujets intéressants quand on est journaliste, et même votre bibliographie en témoigne, vous vous intéressez à beaucoup de choses. Pourquoi spécifiquement le développement durable ?
Oui. Alors, comme je l'ai dit, mais trop rapidement au début, moi je suis un journaliste, donc je me pose des questions, et quand je vois des événements se produire, des initiatives émerger ici et là, je m'y intéresse. Je me déplace beaucoup à travers la France, à travers le monde, et ça me permet de voir comment, d'aller à la rencontre des acteurs, de leur poser des questions. Et là, j'avais donc, il y a de ça une quinzaine d'années, entendu parler d'une notion, le développement durable, qui pourtant était déjà, avait pratiquement une dizaine d'années, puisque c'était au moment du 10e anniversaire de la remise du rapport Brundtland dont je vous parlais. Moi, j'en avais jamais entendu parler, jusqu'au jour où mon rédacteur en chef me propose d'explorer la question, et j'ai découvert un enjeu très intéressant. Et ce qui m'a intéressé après, c'est la manière dont des élus, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des militants se sont appropriés cette notion en se posant des questions. Moi, j'ai trouvé que le développement durable, c'est quelque chose qui fait se poser beaucoup de questions. Et ça m'intéresse. Je suis d'une époque né d'une époque qui était encore marquée très fortement par les clivages idéologiques. On était très marqués sur le plan politique et on se posait plus vraiment de questions. On était dans un camp ou dans l'autre. Et là, le développement durable, je m'aperçois que, certes, ça a d'emblée suscité des critiques. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit en condamnant le développement durable, en considérant que c'était un mot à la mode, que c'était, ça véhiculait une vision étroite des choses idéologiques. Moi, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup se poser des questions. Et j'aime beaucoup la manière d'observer la manière dont un élu, un chef d'entreprise, essaye d'en comprendre la signification et essaye de traduire ça dans les faits. Je vous donnerai un exemple et j'arrêterai là, mais c'est un exemple d'une rencontre qui m'a conforté dans cette idée que ça peut être intéressant d'étudier le développement durable à travers les gens, les femmes et les hommes, et d'observer la manière dont ils se l'approprient. Un jour, j'étais invité à un colloque qui était consacré au développement durable. Et à cette occasion était invitée je crois que c'était une élue de la ville d'Angers. Et la ville d'Angers, donc en Poitou-Charentes, non, ou Pays de la Loire, je crois. J'aurais dû réviser. Bon, au sud, ouest. Et cette élue était invitée à parler des actions qu'elle mettait en œuvre dans le cadre de sa ville. Et je m'attendais à ce qu'elle nous fasse un long exposé, vantant les charmes de sa ville et les mérites de son action. Et en fait, j'ai rencontré une femme qui se posait plein de questions. Et elle nous disait, vous voyez, j'ai essayé de, de concevoir un quartier qui soit très satisfaisant sur le plan environnemental, c'est-à-dire où les bâtiments soient de qualité, où ils n'exigent pas beaucoup d'énergie pour leur chauffage, leur éclairage. Mais on s'est rendu compte qu'on a tellement bien fait les choses que ça a renchéri le coût de ces habitants, de ces habitats. Résultat, les personnes qui vivent en difficulté, qui sont démunies, n'ont pas accès à ce type de logement. Or, le développement durable, il oblige à penser les problèmes du point de vue environnemental, économique et social, à veiller à ce que tout le monde puisse avoir accès à ce type de quartier. Et donc, elle se rendait compte qu'elle avait eu beau bien faire, ça produisait des effets inattendus. Et du coup, ça entraînait de nouvelles questions, ça lui posait de nouvelles questions, et elle essayait d'y répondre en trouvant des solutions pour permettre à des ménages peu fortunés de continuer à avoir accès. Donc tout ça pour vous dire, et j'en termine là, que ce qui m'intéresse dans le développement durable, c'est que ce n'est pas une solution clé en main. C'est un état d'esprit qui se conduit, qui vous conduit en permanence à vous poser des questions et à ne jamais rester là où vous êtes, à toujours reprendre votre métier, à poursuivre votre action, de sorte que, au fond, la manière dont on fait du développement durable aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec la manière dont on le faisait il y a 20 ans, parce qu'on a tiré des enseignements sur les effets pervers de solutions que l'on croyait être idéales, tout à fait appropriées. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bon, j'aimerais quand même bien écouter que vous avez plus de 200 dans cette salle, c'est quand même malheureux.
Ici, parfait. Non.
Comment nous pouvons améliorer l'ICIET pour sortir des aspects d'environnement ?
Merci de la question. Alors, je pensais avoir un peu répondu. C'est-à-dire que le lycée, c'est d'abord un lieu où on accède. Donc, comme l'a très bien posé votre professeur, il faut en amont se poser la question du transport. Vous aurez beau faire un lycée magnifique, si on n'a pas la possibilité d'y accéder facilement avec des moyens qui soient économes en énergie, ça ne sert à rien. Donc il faut se poser la question du transport. Or, par exemple, il y a des collèges ou des lycées qui organisent des pédibus, un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire les enfants, même d'un très bas âge, ont la possibilité d'aller seuls à leur collège. Alors seuls, pas tout à fait. En fait, ils s'organisent en groupe et ils sont encadrés par des parents qui se relayent pour les amener jusqu'à l'école. L'avantage, c'est que ça évite que les parents transportent chacun de leur côté leur enfant en voiture au lycée. Non, ils les mettent dans un endroit et l'enfant attend l'arrivée du groupe, du pédibus, qui évoque la marche à pied, et pour aller avec ses camarades dans un lycée. Donc c'est une idée parmi d'autres, des solutions qu'on peut imaginer. Alors vous avez passé l'âge d'utiliser ce type. Maintenant, une fois dans le lycée, il y a plein de choses à faire. Améliorer les conditions de chauffage, mais ça passe par de nouveaux équipements. Donc là, ça ne dépend plus tellement de vous, mais aussi peut-être par des comportements. Peut-être qu'il y a, un nouveau aménagement des salles, une optimisation de l'utilisation des salles pour éviter d'en chauffer plusieurs en même temps, alors que on pourrait se restreindre à une ou deux salles, je ne sais quoi. Le chauffage, l'éclairage, la restauration, parce que c'est un lieu où on se nourrit, hein, vous en savez quelque chose, et donc on peut imaginer que le cuisinier, je ne sais pas s'il est là, ça se fait dans certains établissements, mais dans la limite des contraintes que vous savez, Madame Brahms, travaille avec des producteurs locaux pour faire que le lycée soit aussi, ou le collège, soit un partenaire économique pour des producteurs locaux, mais aussi surtout pour vous assurer à vous des aliments, des légumes, des fruits de qualité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Je serais tenté, en fait, je ne sais pas comment vous appeler, mais de vous renvoyer la question. Là, d'emblée, est-ce que vous auriez une suggestion à faire ? ou on vous laisse le temps de la réflexion et on revient vers vous éventuellement, à moins qu'un camarade ou une camarade ait une idée. Mais je pense la règle d'or, c'est déjà la règle d'or, c'est déjà de se réunir autour d'une table et par un jeu de en dialoguant entre soi, de faire émerger des solutions. Souvent, il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé, mais qui émergent parce qu'on a pris le soin de se réunir autour d'une table et d'essayer de réfléchir ensemble à un objectif commun. Comment y parvenir, on ne sait pas, tant que la négociation n'a pas été ouverte, le dialogue n'a pas été ouvert, mais il faut prendre ce risque-là. D'accord ? Moi, je le vis souvent, ça. Au sein d'une rédaction, dans une rédaction, le fait de se réunir autour d'une table, ça aide beaucoup les journalistes à trouver des idées auxquelles ils n'auraient pas pensé. Je pense qu'il pourrait en être de même pour imaginer des solutions pour votre établissement. Et puis autre chose, allez voir ce qui se fait ailleurs aussi. Hein. Ça, c'est aussi un réflexe à avoir. Il y a des établissements qui font des choses. Allez voir le site du comité 21. Il donne plusieurs exemples. Une question ou des suggestions pour eux.
Alors, qui serait prêt à s'impliquer dans une commission de réflexion sur le développement durable? Personne n'est intéressé, non? Alors, y en a-t-il parmi vous qui seraient prêts à s'impliquer dans une réflexion justement sur le développement durable et mettre des propositions?
Moi, je pense que si vous ne faisiez pas, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez, mais gardez à l'esprit et renseignez-vous. Ce que je constate, c'est le développement, l'apparition de nouveaux métiers. Et d'ailleurs, à l'université, mais aussi dans des écoles d'ingénieurs, de commerce, on commence à mettre en place des formations pour préparer, pour former à des métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années, et notamment des métiers, des gens qui ont la capacité, ça c'est un métier qui est plein d'avenir, qui relève un peu du travail de médiation. C'est des gens qui ont une culture suffisamment générale, notamment dans le domaine technique, pour faire travailler ensemble des artisans autour de projets de construction. Parce que ce dont on souffre en France, peut-être plus qu'ailleurs, c'est que la manière de construire un bâtiment qui soit satisfaisant en termes énergétiques, d'émissions de gaz à effet de serre, on sait le faire. On sait le faire techniquement. Les solutions existent. Mais on ne sait pas réunir les différents corps de métier. Et d'où la prise de conscience de la nécessité d'inventer un métier, un profil, des professionnels, qui est cette capacité d'avoir une vue d'ensemble et de faire travailler, d'identifier les différents artisans ou architectes ou maîtres d'ouvrage qui pourraient collaborer à la construction d'un bâtiment, d'un écoquartier ou alors d'un lieu de transport ou d'un établissement scolaire. Renseignez-vous, peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup d'idées sur ce que vous voulez faire plus tard, vous avez encore le temps, mais sachez que le développement durable, ce n'est pas simplement un mot vague, c'est quelque chose qui commence déjà à inspirer de nouveaux métiers dans le cadre d'écoles d'ingénieurs, de commerce et à l'université. Donc si vous vous impliquiez d'ores et déjà dans la réflexion sur ce que pourrait être votre établissement, un établissement en gélière durable, vous acquérerez une expérience qui pourrait peut-être vous donner pas mal d'idées pour la suite. Mademoiselle ? Ah, d'accord.
Alors, une question ? Alors, peut-être parmi les professeurs qui sont présents. Les élèves, ne souhaitez-vous pas pour que je...
Non, non, moi ce qui me fait un peu mal, c'est que bon, c'est vous les jeunes, David. En fait, on fait ça un peu pour tout l'avenir, donc bah, je vais poser les questions pour vous. À savoir, là vous parlez d'éco-endroits, petits, très local, mais au niveau national, international, je pense que la barrière un petit peu actuellement, c'est un petit peu une barrière financière, parce que, comme vous disiez, dans les pays sous-développés, c'est difficile, dans cette misère, de leur parler de développement durable.
Oui, vous avez raison. Alors, en même temps, je pense que si le développement durable, l'investissement dans le développement durable devait être coûteux en termes d'investissement financier, il y aurait comme une contradiction. Le développement durable invite justement à inventer des solutions innovantes et qui soient les plus économes. En la matière, les pays du Sud, les pays pauvres, ont tellement l'habitude de la gestion de la rareté qu'ils font preuve, pour certains, dans certains territoires, d'une inventivité en termes de solutions. Alors, on prend souvent l'exemple, pour moi c'est pas forcément un bon exemple, mais je le prends, celui de la microfinance. Les populations pauvres des pays du Sud ont le problème que j'évoquais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de revenus assurés au quotidien. Et surtout, ils n'ont pas accès aux banques pour obtenir des crédits qui leur permettraient de financer une activité, ne serait-ce que de commerce. Et c'est en réponse à ce constat qu'ont commencé à se mettre en place, à partir des années 1970, des dispositifs de microfinance, c'est-à-dire des associations qui se sont spécialisées dans l'octroi de microprêts à des populations qui, quoique pauvres, avaient une capacité à rembourser leurs prêts, justement parce que ces prêts servaient à financer des petites activités dont elles retiraient un revenu. Je m'attarde sur cet exemple qui n'est pas forcément le meilleur, mais au moins pour vous faire sentir le fait que même dans les pays les plus pauvres, il y a une capacité d'invention. Alors cela étant dit, il va sans dire que ce n'est pas la microfinance qui va sortir les 2,8 milliards d'êtres humains vivant en dessous du seuil de pauvreté, de la pauvreté. Mais l'enjeu, il est d'être à l'écoute de ces petites initiatives portées souvent par des entrepreneurs anonymes et d'assurer leur montée en généralité, de les accompagner pour qu'elles prennent plus de poids et que de proche en proche, elles bousculent un peu l'ordre économique mondial. Ça peut paraître très utopique, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour considérer qu'il ne faut pas désespérer, que nous sommes presque condamnés à cet espoir de voir des micro-initiatives prospérer pour peu qu'on les soutienne, on les accompagne. Et ça ne passe pas forcément par des investissements massifs. Je pourrais citer aussi, et j'en terminerai là, toutes sortes d'initiatives qui visent à renverser le problème. Certains disent inutile de répondre aux problèmes de santé des pauvres pour la bonne et simple raison, ils n'ont pas les moyens de les payer. Et il y a des entrepreneurs, ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, parce qu'ils visent à concilier efficacité économique et réponse à des problèmes sociaux, qui disent mais il suffit de renverser l'équation économique, à considérer que certes, individuellement, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont tellement nombreux qu'il peut y avoir un effet massif qui permette à l'entreprise de rentrer dans ses frais, de réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et vous avez plusieurs exemples d'entrepreneurs qui font, je mets des guillemets, fortune, ou qui gagnent leur vie en parvenant à répondre aux besoins fondamentaux d'êtres humains pauvres, justement en faisant ce pari, voire en ne faisant pas payer aux pauvres, mais en faisant payer aux moins pauvres des pauvres, voire aux petits aux moins riches qui auraient néanmoins la possibilité de payer leurs prestations ou leurs produits. Donc vous avez des gens qui réinventent des modèles économiques. Il est encore trop tôt pour dire si ça va renverser l'ordre des choses, mais c'est des choses auxquelles moi, personnellement, je suis très attentif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation. Je citais, excusez-moi, Mohamed Younous, un prix Nobel de la paix que l'on considère comme l'un des grands promoteurs de la microfinance et qui a développé ce qu'on appelle le social business, c'est-à-dire une forme d'autres modes de production tournés vers la satisfaction des besoins sociaux des populations les plus pauvres.
Oui.
Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié cette double intervention. Je réagirai sur la toute première qui m'offre l'occasion de dire que si le développement durable est rompe avec les modèles de développement antérieurs, c'est qu'il incite à tout, sauf à réinventer la poudre, à faire table rase du passé. C'est-à-dire, le développement durable a ceci d'intéressant, qu'il nous oblige à inventer des choses nouvelles, mais en composant avec l'héritage du passé. Et je dis ça parce que souvent, la tentation a été, et je reviens sur l'exemple que vous citiez à travers votre établissement, le réflexe a été de se dire, si on veut parvenir à des bâtiments satisfaisants sur le plan écologique, on n'a qu'à créer des écoquartiers. Je ne sais pas si vous avez entendu, je crois qu'il y en a un ici à Dunkerque. C'est-à-dire on invente quelque chose de nouveau. Sauf que l'écoquartier n'est qu'une partie de la ville et que l'on ne fait que repousser le problème qu'évoquait votre professeur, c'est-à-dire qu'il faut bien repenser le mode de chauffage et d'éclairage des bâtiments existants qui, pour la plupart, ont été construits bien avant les premières mesures de réglementation énergétique. Alors, est-ce que c'est possible ? Dieu merci, oui. Vous avez à travers la France énormément d'exemples de bâtiments anciens qui ont été réhabilités, qui ont été mis aux normes et qui ont vu leur coût énergétique considérablement diminuer. Et vous avez ce qu'on appelle, écoutez bien ça, les offices en charge des logements sociaux qui se sont pour beaucoup investis dans ce domaine parce qu'ils considèrent que ça permet aux ménages qui vivent dans ces vieux immeubles de récupérer du pouvoir d'achat grâce à la réduction de leur facture énergétique. Seulement, j'ai dit qu'il y a beaucoup, certes beaucoup d'exemples à travers la France. Après, il faut voir au cas par cas si ça se trouve au terme d'un diagnostic. Les spécialistes diront que non, le lycée Auguste Angélière n'est vraiment pas aux normes, ça demanderait trop d'investissement que de le mettre aux normes, qu'il vaudrait mieux le raser. Peut-être qu'il vous dira, et c'est tout à fait possible, c'est possible de le mettre aux normes, moyennant un minimum d'investissement, et ça ne serait pas le premier lycée qui aura pu se mettre aux normes. Madame Brahms peut en témoigner, quand je suis arrivé là, naturellement, le premier mouvement, c'est de dire ce lycée n'a pas une esthétique particulièrement soignée. Mais je suis persuadé qu'on peut en faire quelque chose de très intéressant, y compris sur le plan esthétique, en repensant les façades, justement à travers le travail de réhabilitation, de mise aux normes, etc. Après, c'est au cas par cas. Là, je ne connais pas assez les caractéristiques, mais je ne serais pas étonné qu'on puisse le sauver. Alors après, est-ce que c'est vous qui souhaitez absolument le sauver et ne pas réinventer quelque... Bon, mais ça, c'est un autre débat que je vous laisse. Allez, que je ne pars pas sans, avec regret, j'aimerais entendre une dernière question. En fait, vous avez, je suis sûr que vous avez des questions, mais que vous n'osez pas. Alors ça c'est décevant. Ça, moi, je trouverais ça très décevant que vous me laissiez partir sans avoir pris la peine de me poser la question qui, je l'espère, je fais ce pari, vous brûle les lèvres. J'imagine que d'autres n'ont aucune question à me poser, ils ont le droit d'avoir aucune question à me poser. Mais ceux qui auraient une question au bord des lèvres et qui me laisseraient partir sans la poser, là je vous prie de croire qu'ils susciteraient chez moi un grand sentiment de regret. Hein. Allez, un petit effort. Alors je me suis trompé, en fait ils n'ont absolument aucune question. Voilà.
Merci beaucoup.
Encore quelques petites minutes d'attention, s'il vous plaît. Donc, je remercie beaucoup, bien sûr, notre intervenant. Ayez la politesse de rester assis, s'il vous plaît, le temps que je termine. Merci. Donc, je remercie beaucoup notre intervenant, M. Allemand. Je remercie également M. Daisy de l'Université de Toulouse-Savoie. Je remercie également les